Et à midi, on aime l'été. Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes le lundi 10 juillet 2017. Ravie une fois encore de vous retrouver pour vous présenter M l'été avec sa kyrielle d'invités, dont Lynn Rémillard, rédactrice en chef du magazine Virage de la FADOC qui célèbre son 25e anniversaire. Anne Évrard, spécialiste en orientation et mobilité au CIUS Mauricie, centre du Québec. Elle est spécialiste en déficience visuelle et on parlera d'adaptation à la cécité pour les tout-petits et pour les personnes âgées. Également à l'émission en studio, Madame Carole Doré du Centre communautaire Radisson qui va nous parler de la programmation estivale et des activités qu'on propose aux personnes handicapées. Et puis nous irons par téléphone joindre la directrice de la maison Clémentine, Maryse Desjarlais, qui en ce moment a bien besoin d'argent. On commence par quelques nouvelles, bien sûr. On revient sur cet incendie à Terrebonne. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet incendie suspect survenu tôt dimanche matin dans une résidence pour personnes âgées de Terrebonne et qui a coûté la vie à une femme de 94 ans. Les policiers donnent pour l'instant peu de détails sur le drame, mais il semble que la résidence venait tout juste de poser des gicleurs qui n'avaient pas encore été testés. Rappelons que l'incendie spectaculaire a forcé l'évacuation de 43 personnes âgées, dont 13 ont dû être hospitalisées, et qu'une dame de 94 ans qui avait été gravement brûlée a succombé à ses blessures dimanche midi alors que deux autres personnes demeuraient hospitalisées à Montréal, mais qu'on ne craignait pas pour leur vie. Rappelons aussi que l'établissement hébergeait 32 résidents en 2016, selon le registre du ministère, et parmi ceux-ci, 13 étaient âgés de 85 ans et plus, tandis que 14 autres étaient âgés de 75 à 84 ans. 5 d'entre eux ont de 65 à 74 ans. Après une première analyse de la scène, des éléments constatés par les pompiers laissent croire que le feu est de nature suspecte. Des enquêteurs de la Sûreté du Québec se sont rendus sur les lieux dimanche. Et puis, il y a quelques heures, on apprenait dans le Québec Huffington Post. Voilà, on apprenait dans le Huffington Post que les gicleurs de la résidence Oasis à Terrebonne n'étaient pas encore en fonction lors de l'incendie. Selon la firme Protection Incendie Atlas, qui protégeait ces jours-ci à l'installation, ou qui procédait, pardon, à ces jours-ci à l'installation de gicleurs dans la résidence pour personnes âgées, qui a donc été la proie des flammes à Terrebonne, on en parlait, d'après Sylvain Guilbeault, le propriétaire de cette entreprise de Terrebonne qui effectuait les travaux. Les trois quarts du système de gicleurs étaient installés dans l'immeuble. Celui-ci n'était donc pas encore opérationnel lorsque l'incendie s'est déclaré en pleine nuit dans cette résidence. La direction de la résidence avait rempli une demande au gouvernement du Québec pour l'installation de ce système de gicleurs en conformité avec les lois en vigueur. L'édifice certifié par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière était par ailleurs muni d'un système de détecteur de fumée et d'un système d'alarme incendie. Toutes les résidences privées pour personnes âgées devront être munies de gicleurs d'ici à 2020. En 2015, le gouvernement du Québec a obligé tous les centres d'hébergement privés de la province à être équipés d'un système opérationnel de gicleurs. Cette loi avait été adoptée à la suite, on s'en souvient, de la tragédie de l'Île Verte en 2014 qui avait fait 32 morts dans une résidence pour personnes âgées. Sur le site fairface.fr, on y trouve ce papier de Valérie Dicchiapari. la pauvreté des personnes en situation de handicap pour la première fois à l'ONU. Jusqu'au 19 juillet se tient à l'ONU à New York le forum politique de haut niveau. Et son thème cette année, c'est l'éradication de la pauvreté. Cet objectif de développement durable, l'ODD, y sera croisé avec d'autres, tous fixés à l'agenda 2030. 272 organisations ont élaboré une contribution internationale et parmi elles, il y en a une française qui s'appelle l'Association des paralysés de France, donc l'APF pour l'acronyme. Et bien pour la première fois, il sera question de la précarité des personnes en situation de handicap. L'APF portera sa voix et défendra ses droits à ne plus vivre sous le seuil de la pauvreté. Selon l'OMS, plus d'un milliard de personnes dans le monde sont en situation de handicap et 80% d'entre elles vivent dans la pauvreté. Quand on parle de développement durable et de personnes en situation de handicap, de quoi parle-t-on exactement ? Farbod Kanzari répond « Le développement durable ne se limite pas aux questions environnementales, il concerne aussi deux domaines, l'économie et la société ». Et parmi les 17 objectifs de développement durable devant être atteints d'ici 2030 et sur lesquels les États, dont la France, se sont engagés, plusieurs concernent les personnes en situation de handicap. Par exemple, l'éradication de la pauvreté, bien sûr, mais aussi l'accès à la santé, à une éducation de qualité ou encore à un emploi décent. Cet agenda 2030 est une feuille de route partagée par de nombreux États dans le monde pour construire une société durable, solidaire et inclusive. Il faut quand même savoir que selon l'OMS, plus d'un milliard de personnes dans le monde sont en situation de handicap et que 80% d'entre elles vivent dans la pauvreté. L'augmentation des ressources et la lutte contre la pauvreté des personnes en situation de handicap constituent un combat historique de l'APF. Elle le porte aussi bien au niveau local, régional que national et désormais international. À l'ONU, nous allons présenter notre contribution et nos propositions en matière de lutte contre la pauvreté. Comme la création d'un revenu minimum d'existence pour celles et ceux ne pouvant pas travailler en raison de leur handicap ou de leur maladie. Nous espérons que ce forum sera une opportunité pour les États d'affirmer leur volonté de mettre en place des réponses durables pour lutter contre la pauvreté des personnes en situation de handicap. Les Torontois vieillissent, mais les services tardent à venir. Les personnes âgées représentent 15% de la population de Toronto. Une personne sur six, selon le recensement de 2016. Mais dans certains quartiers de la métropole, une personne sur quatre à 65 ans ou plus. Toutefois, les services et les programmes de soutien qui leur sont destinés accusent des retards par rapport au vieillissement de la population, selon l'organisme Social Planning Toronto. C'est un texte de Lynne-Françoise Pelletier pour ici.radiocanada.ca. Toronto compte 140 quartiers. La plus grande concentration d'aînés vit dans les quartiers de Markland-Wood notamment. Une personne sur quatre a plus de 65 ans, c'est le conseiller municipal Josh Matlow qui préside le groupe de travail qui se penche sur les besoins futurs des aînés. Selon lui, il faut tout examiner, du logement au transport en passant par la sécurité des piétons, car près de la moitié des personnes qui sont happées par des véhicules sont des aînés. Alors, près d'une centaine de recommandations ont été adoptées, mais pas nécessairement financées. L'organisme Social Planning Toronto estime que la ville doit faire encore plus pour les aînés. Son directeur, Sean Mayer, déplore le manque de vision de la ville en matière d'activités récréatives et d'établissements de soins de longue durée pour les aînés, notamment dans les communautés où ils vivent. Et puisque nous parlons de personnes handicapées, on va tout de suite revenir sur ce sujet, mais on va rester au Québec avec Lynne Rémillard, qui est rédactrice en chef du magazine Virage de la FADOC. Bonjour, Madame Rémillard.
Bonjour.
Alors, 25 ans cette année?
Oui, 25 ans cette année que le magazine Virage existe.
Donc, il est né en, laissez-moi faire le calcul, ou à moins que vous le fassiez très vite pour moi.
En 1992.
En 1992. Alors, au départ, oui, j'imagine qu'il ne devait pas être très, très épais. Il a dû s'épaissir au fil des ans.
Ah oui, absolument. Puis, lorsque c'était mis sur pied, c'était surtout pour être un outil de communication avec les membres.
Oui.
Parce qu'il n'y avait pas de moyen de se parler ensemble quand même. Il y avait 250 000 membres à ce moment-là. Alors, c'est en premier lieu un outil de communication pour transmettre toutes les nouvelles du réseau FADOC à travers le Québec.
Bon. Allez-y,
C'est sûr qu'au
allez-y.
fil des jours, oui, au
Oui.
fil des jours, c'est sûr que là, il est devenu aussi un outil de loisir. Moi, j'ai toujours dit, parce que c'est devenu avec des chroniques, avec de l'information qui dépasse les informations du réseau. Alors, on fournit à chaque personne, à chaque membre, un beau magazine qui leur permet d'être au courant des sujets d'intérêt.
Et
Et là, on
ce,
en a 400 quelques mille copies maintenant aujourd'hui.
400 000 copies
Et plus, oui.
et plus même, qui se baladent partout au Québec.
Exactement, oui.
Et tous les sujets touchés concernent le Québec aussi.
Exactement, la plupart concernent le Québec.
En,
Quelquefois,
dans
c'est sûr
son
qu'on peut aller
entier.
voir un peu ce qui se passe, oui, c'est ça, un peu ailleurs pour voir qu'est-ce qui arrive aux personnes de 50 ans et plus ailleurs. Mais c'est vraiment des sujets qui sont d'intérêt pour les gens d'ici.
Alors justement, parlons-en de ces
Oui.
sujets-là. Est-ce qu'ils vous sont demandés, suggérés? C'est vous qui les choisissez? Comment ça se passe?
Écoutez, c'est un peu les deux. On a des gens qui nous écrivent pour nous suggérer des sujets, puis ça nous fait toujours plaisir d'élaborer. Mais tu sais, il faut quand même que les sujets soient traités d'une façon informative,
Oui.
d'une façon agréable. Il y a plusieurs sujets que les gens aimeraient entendre parler, mais il y a quelquefois quand même qu'il faut faire des choix parce qu'on en a plusieurs sujets. Et on a juste quatre magazines par année.
Et c'est vrai, et c'est vrai.
Alors, c'est triste parce que ça nous limite. On
Oui.
pourrait en faire 12 par année.
C'est vrai,
Oui,
tellement il y a de sujets.
absolument. Oui,
Alors,
oui, oui.
ça va de quoi à quoi en passant par quoi, par exemple?
Ben écoutez, commençons par des sujets d'intérêt. On va appeler ça les dossiers sociaux, les affaires publiques. On a tous les dossiers qui traitent autant parlons de la santé, parlons des revenus. Tous ces sujets-là sont traités de différentes façons. Ils peuvent être traités comme un article de fond avec une personne invitée qui fait un reportage. Ça peut être traité informativement parce que c'est des mémoires, c'est des actions que le réseau FADOC a posées auprès d'une instance gouvernementale.
Oui.
Ça peut être aussi traité de façon, je vous dirais, un petit peu connexe, sans toujours
Oui.
être sur le sujet en tant que tel. Et on veut essayer aussi de donner aux gens je vous dirais, le goût de rester actif
Oui.
et sans que ça coûte une fortune non plus. Alors, on donne des chroniques qui vont aider les gens à s'intéresser, que ce soit de l'horticulture, que ce soit de la lecture.
Mais
On
oui.
reçoit beaucoup de gens qui écrivent aujourd'hui. On a une page qui parle des mots pour le dire. Ce sont des gens
Oui.
ordinaires qui écrivent des livres. Et on
Oui.
en fait la publicité, la promotion,
Ah, mais c'est
entre
bien.
autres.
Ce qu'on appelle l'auto-édition,
Oui,
en quelque
exactement. Puis il y en a
sorte.
de plus en plus. Oui, exactement. Mais c'est quand même un beau passe-temps pour les gens qui ont l'intérêt
Mais c'est
à ce
certain,
niveau-là.
c'est certain. Et
Oui.
puis peinture aussi. Et puis comme vous
Peinture,
dites,
oui.
activité physique. Parce que bon, 50 ans et plus, on s'entend qu'à 50, 51, 52, aujourd'hui, en 2017, on est encore très, très actif. Hein. Mais
Oui, on est jeune
parfois,
aussi.
mais oui, on est jeune aussi, hein, c'est vrai.
Oui.
Mais on s'entend que plus on vieillit et plus on a tendance peut-être à dire, oh, j'ai mal là, non, je vais pas sortir. Alors j'imagine que dans le magazine aussi, on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers qui nous forcent un petit peu à bouger. D'ailleurs,
Absolument.
vous savez, Madame Rémillard, nous avons ici même, sur les ondes de Canal M, vous savez que la vie des personnes âgées nous tient beaucoup à cœur.
Oui,
Et,
absolument.
hein,
Ça,
et
je
nous,
le vois.
voilà, exactement. Et notamment, moi, je sais qu'à l'émission M l'été, nous avons France Cardinal Remette, qui est chroniqueuse spécialiste également du milieu, de la communauté des personnes âgées et des soins qu'il faut leur apporter, qui fait des chroniques chez nous. Et d'ailleurs, sa prochaine chronique va porter sur le besoin de rester actif lorsqu'on est une personne âgée.
Ben c'est nécessaire.
Oui.
Et c'est pas nécessaire d'avoir le même rythme, d'avoir la même intensité peut-être que lorsqu'on avait 45, 50 ans. Sauf qu'à 65, 70, il faut quand même s'adapter, mais continuer d'être actif. Parce que si on décide d'aller faire une activité à l'extérieur de la maison, c'est évident qu'on va rencontrer d'autres personnes. Et ça aussi, notre vie sociale, c'est comme un peu un cercle vicieux. Si
Oui.
la vie sociale va bien, ben on a le goût de faire des activités et
Oui.
vice-versa.
Et ça, vous
C'est
donnez
très
plein, plein
important.
d'idées, hein. Vous donnez plein
Absolument.
d'idées de sorties, d'espèces de soirées de réseautage aussi, hein.
Absolument. Puis vous savez, le réseau FADOC compte quand même tout près de 800 clubs à travers le Québec.
Ah
Alors, on
oui.
essaie de mettre des nouvelles des clubs. pour montrer ce qui se passe dans les différentes régions du Québec.
Oui.
Et c'est des activités de plus en plus intéressantes. On parle de l'intergénération, il y a des activités avec les petits-enfants aussi.
Oui.
On essaie de faire vraiment un bel éventail.
Vous êtes très actif, hein?
Ah, absolument.
Ça bouge beaucoup.
C'est tellement intéressant.
Ouais.
Vous savez, je pense qu'en quelque part, quand on comprend les besoins, mais aussi, pas juste les besoins, mais l'intérêt de ces gens-là.
Bien sûr, bien sûr.
Ça ne finit plus.
Madame,
c'est vrai.
Mais c'est vrai, Madame Rémillard. Vous êtes rédactrice en chef hein, de ce magazine qui, rappelons-le,
oui.
s'appelle Virage de la FADOC. Depuis les débuts, hein, vous l'avez créé.
Oui,
hein?
Oui, moi je me suis assise avec une tablette et un stylo et ils m'ont dit il faut faire un magazine. Alors, c'est un petit peu mon magazine, vous comprenez? C'est mon petit bébé.
Ben, je comprends
oui.
qu'il vous tienne à cœur.
Ben,
écoutez, parmi la multitude de sujets qu'on vous propose, moi, j'en ai un à vous proposer.
Allez-y.
Un reportage sur Canal M pour faire savoir aux personnes âgées qu'il y a une radio à Montréal qui diffuse sur tout le Québec et même sur des territoires extérieurs, dont le Nouveau-Brunswick, en Ontario aussi, tout ça, et que nous travaillons aussi beaucoup pour les personnes âgées, pas seulement pour les personnes handicapées visuelles ou handicapées mentales ou physiques. Alors, ça pourrait faire un beau sujet,
ça. C'est un engagement. On fait ça, c'est un engagement de ma part.
D'accord. Alors, on va vous recevoir. Ça nous va très bien, Madame Rémillard, et on va vous recevoir avec un très grand plaisir pour vous faire visiter les lieux. Vous allez voir, on a un très beau studio. Et puis, vous savez, pour vues et voix aussi, parce que il y a énormément de personnes âgées qui commencent à souffrir de déficiences visuelles et pour qui les livres audio adaptés est une source culturelle énorme, je veux dire. C'est ça.
Et moi, ça, là, ma mère, c'est une... Vous allez voir dans le prochain magazine qui sort, justement, on en parle, parce que ma mère trouve là-dedans un divertissement.
Ah, c'est ça.
Une nourriture.
Voilà.
De la dégénérescence maculaire.
Alors, on va en parler.
Avec ça, elle a, exactement, c'est extraordinaire.
Bon, merci beaucoup, Mme Rémillard. Alors, c'est un rendez-vous. On reste en contact et vous venez nous rendre visite. On va répondre à toutes vos questions.
Oui, puis je vais en profiter pour remercier toute mon équipe qui fait le succès de ce magazine-là.
D'accord. Oh, ben oui, c'est parfait. Vous avez bien raison. Et puis nous, d'ailleurs, on les salue tous, vraiment, tous ceux qui écrivent, tous les gens qui sont au graphisme, tout ça. Bravo, bravo. Et puis continuez votre beau travail.
Bon, c'est bien. C'est sûr qu'on communique ensemble pour le reportage.
D'accord.
C'est un plaisir.
C'est parfait, Madame Rémillard. Au revoir.
Au revoir.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Oui, on en a eu juste assez d'Angélique Kidjo pour nous donner l'envie d'en entendre plus. Elle peut reprendre absolument ce qu'elle veut, cette femme, et c'est toujours magnifique. Mais on a fédé parce que j'ai aussi très, très hâte d'entendre une spécialiste en orientation et mobilité au CIUS Mauricie, Centre du Québec. Elle est spécialiste notamment en orientation et mobilité en déficience visuelle. Et c'est Madame Anne Évrard. Bonjour, Madame Évrard.
Bonjour Madame Fay.
J'en vous remercie infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions parce que on trouve qu'une spécialiste comme vous, qui travaillez notamment avec les tout-petits pour leur apprendre, à tout-petits qui vivent déjà avec la cécité, donc pour leur apprendre à faire leur marque, hein, à utiliser une canne blanche, à tout ça. Et nous, voyant, on se dit, mais comment fait-elle et comment font-ils? Est-ce qu'on peut répondre à cette question-là, Madame Évrard?
Ben, écoutez, en fait, c'est sûr que ce qu'on essaie de proposer aux parents et puis à ces tout jeunes enfants, ce sont en effet des moyens pour qu'ils puissent explorer un petit peu leur environnement, qu'ils soient un petit peu plus sécurisés, parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à les protéger, ces enfants qui voient mal ou qui voient pas du tout. Et donc, les services en orientation et mobilité essaient de donner des moyens, des petits trucs, des techniques pour qu'ils puissent en effet mieux contrôler ce qui se passe autour d'eux. Alors, c'est clair que quand on parle de déplacement, il faut d'abord s'orienter. Alors, l'orientation, c'est savoir où on est, où est-ce qu'on doit aller et comment on peut arriver. Puis, on va essayer de mettre en place toute une série de stratégies pour utiliser nos sens. Alors, si l'enfant est semi-voyant, ben, on va utiliser ce qui lui reste, en tout cas, comme vision pour lui donner des repères. Et ce qui peut souvent être le cas quand on intervient, nous, en mobilité, c'est que leur vision n'est vraiment pas assez suffisante pour qu'ils soient sécurisés dans un déplacement plus long. Donc, on va mettre en place des stratégies plus au niveau de l'audition. On écoute les échos, on écoute la tonalité, on essaie de s'orienter vers un bruit. On va aussi utiliser les pieds parce que on peut suivre un tapis pour pouvoir se rendre jusqu'à la cuisine. Oui. On peut même utiliser le nez pour entendre, pour sentir où se trouve le beau bouquet de fleurs dans le salon qu'on s'approche. La fenêtre qui est entrouverte, elle va donner du vent, mais va aussi peut-être entendre le bruit des autos. Donc, on va mettre en place et surtout essayer de stimuler le jeune à pouvoir percevoir toutes ces informations.
À partir de quel âge, madame, peut-on commencer à travailler, entre guillemets, avec un enfant pour la spatialisation?
Ça dépend vraiment un petit peu du développement de
l'enfant.
De l'enfant. Personnellement, j'ai commencé avec des tout-petits qui ne marchaient pas encore. Alors, c'est sûr que là, à ce moment-là, c'est vraiment les inciter justement à pouvoir percevoir cet environnement qui est au-delà de ce qu'on appelle l'espace brachial, donc au-delà de ce que la main peut toucher. Mais je vous dirais que mes interventions sont beaucoup plus régulières à partir du moment où l'enfant est capable d'effectuer des pas. On travaille en collaboration évidemment avec des physiothérapeutes là, au départ pour être sûr que l'équilibre est bon. Puis on ne donne pas la canne directement. On va plutôt proposer une aide que j'appelle la pré-canne, qui est un espèce de substitut de la canne, où ça pourrait être simplement, vous savez, pour une petite fille, une petite poussette de poupée. Mais la pré-canne a l'avantage de pouvoir être vraiment analysée, étudiée pour que ce soit vraiment la largeur de l'enfant. Alors, il s'agit quoi? D'un cadre avec un rouleau qui est en bas, et l'enfant va faire rouler ce cadre devant lui, de sorte qu'il sera toujours protégé, non seulement de tout obstacle qui sera devant lui, mais aussi de toute dénivellation, parce que avec ce rouleau, il va sentir que ça peut descendre, qu'il y a quelque chose qui peut anticiper le danger.
Oui, parce que Dieu sait si, quand on a un enfant voyant, on a toujours peur qu'il se cogne, qu'il se bute à la table du salon et tout, mais avec un enfant non-voyant, enfin, c'est pire, quoi. Donc, j'imagine que vous travaillez à domicile, d'ailleurs, hein?
Alors, je travaille aussi bien à domicile que dans les CPE ou dans les garderies, et puis évidemment beaucoup à l'école. Mais vous savez, je voudrais reprendre la phrase d'un psychologue qui travaille à Québec et non-voyant lui-même, et qui avait présenté aux parents de l'Association québécoise des enfants handicapés visuels une phrase que j'ai adorée. Il a dit, vous savez, on n'a pas plus mal quand on ne voit pas que quand on voit. Donc, ce qu'il dit, c'est oui, c'est sûr que ça peut surprendre, mais la douleur n'est pas plus grande.
Non.
Puis c'est ça aussi que j'essaie de faire comprendre aux parents. Tout enfant qui voit va à un moment donné aussi, à un moment donné,
se cogner. Exactement.
On va faire attention, c'est sûr qu'on ne va pas le mettre devant une voilée d'escalier, mais je veux dire, oui, l'enfant qui ne voit pas a le droit aussi, de temps en temps, de se faire un peu
absolument.
Mal.
Absolument.
Il doit apprendre aussi. Donc, on va. Alors, oui.
Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire.
La vulnérabilité, que les parents pensent que l'enfant est très vulnérable. Le tout, c'est de l'encourager, c'est sûr, de s'assurer quand même que c'est sécuritaire dans l'environnement. Mais moi, je suis entourée de parents qui comprennent. Et puis, l'effet aussi de les mettre en situation. On aime bien rencontrer les parents et puis leur mettre eux-mêmes le bandeau pour qu'ils comprennent c'est quoi un petit peu la perception qu'on peut...
Oui.
Qu'on essaie de travailler avec l'enfant, mais comment l'enfant peut percevoir. Puis ça fait mieux comprendre aussi les choses.
D'ailleurs, vous me tendez une perche. Pardon. Excusez-moi, je me suis étouffée. Madame Évrard, vous me tendez une perche parce que la participation des parents... Bon, je voudrais d'abord préciser que vous êtes d'origine belge. Hein? Vous êtes arrivée ici il y a maintenant, quoi, une vingtaine d'années?
Ah, ça, c'est en 99.
D'accord. Et quand on a préparé cette émission-là, vous me disiez que vous aviez été vraiment touchée par le fait de voir les parents ici beaucoup plus présents qu'en Europe, hein? Enfin, du moins de ce que vous aviez vu auparavant. Donc... C'est important, c'est essentiel aussi ça pour les enfants, pour leur développement, hein, que les parents soient au courant de ce qui se passe.
Non seulement qu'ils soient au courant, ça c'est clair, mais que leurs besoins viennent d'eux aussi, parce que c'est sûr que, vous savez, c'est ça, moi je suis plutôt jeune, donc j'ai commencé en 81 à travailler d'abord en Belgique, comme vous disiez, c'était une institution spécialisée pour enfants déficients visuels, donc en fait les enfants étaient arrivés le lundi matin, repartaient le vendredi, on avait rarement des contacts réguliers avec les parents, c'était sur nous que les parents en fait remettaient toute cette valeur qui était importante, mais que nous, à l'époque, on ne se rendait même pas compte que l'éducation, ce n'était pas entre nos mains, c'était vraiment entre leurs mains aussi, évidemment. Mm-hmm. Ce que je me suis rendu compte en arrivant ici au Québec, mais c'est sûr qu'il y a aussi des évolutions, et en Belgique aussi, je peux vous dire qu'on a bien évolué depuis.
Oui,
l'application des parents est
essentielle, oui, bien sûr.
Est essentielle, donc... Moi, la façon dont j'essaie de le faire, d'abord, c'est que ici, partout au Québec, dans tous les centres de réadaptation, on parle de plans d'intervention.
Oui.
En réadaptation, les parents sont présents, on essaie même d'avoir le jeune là aussi. On essaie de voir c'est quoi leurs besoins. C'est clair que au départ, pour des parents, imaginez que leur petit enfant aveugle va devoir traverser une rue, c'est l'horreur.
Bien sûr.
On essaie de les rassurer, on leur explique comment on va s'y prendre. Et puis, si pour eux, ils peuvent participer au rencontre que j'ai avec le jeune, peut-être pas systématiquement, mais en tout cas moyen régulier, tant mieux. Et sinon, moi, je veux dire que j'adore l'outil de la petite caméra vidéo. Quand je sais que l'enfant est déjà plus sûr, je me permets de filmer, puis après, on peut
parler avec
les parents et j'explique un petit peu c'est quoi les facteurs qui
bien
vont
sûr.
Aider l'enfant à pouvoir décider à quel moment il peut traverser la rue.
Madame Évrard, figurez-vous que nous venons déjà de passer 8 minutes ensemble. On n'a plus que 10 secondes. Vous savez quoi? Je veux vous réinviter pour qu'on parle des personnes âgées. D'accord?
Oui.
Je vous souhaite une belle journée, Madame Évrard.
Merci
à vous. Au revoir.
Bonne journée.
Et il y a des centres communautaires, mes amis, qui sont très, très, mais alors très actifs. Et à un moment donné, je suis tombée sur le centre communautaire Radisson. Et là, je voyais qu'il y avait une programmation estivale assez complète quand même, avec des activités, des sorties assez cocasses et sympathiques pour des personnes handicapées. Et tout ça organisé par ce centre communautaire Radisson. Et je reçois d'ailleurs sa coordonnatrice, qui est Madame Carole Doré. Bonjour Madame Doré.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Bon, ça va très bien.
La journée de soleil, rare.
On a failli ne pas vous entendre, mais finalement, ça y est, on va en profiter.
Oui.
Alors du coup, il y a des activités qui vont battre leur plein, j'imagine.
Oui.
Madame Doré, le centre communautaire Radisson, comme son nom l'indique, d'abord, c'est dans l'est de Montréal?
Oui, c'est situé près du métro Radisson, près
d'accord.
de la place Versailles. Mais on a un point de service au centre-ville aussi,
okay.
au coin de René-Lévesque et Saint-Dominique.
D'accord.
Et nos activités ont lieu dans les deux sites, mais aussi les activités d'été ont beaucoup lieu à l'extérieur.
Bien sûr, j'imagine.
C'est ça, oui.
Alors, vous êtes là pour nous en parler, notamment de ces activités d'été-là. Madame Doré, par quoi on commence? Tiens, allez.
Ben, peut-être vous dire que notre programmation d'été est commencée depuis le 21 juin.
Oui.
On a commencé par souligner la fête nationale, le lancement de la programmation d'été, et on va jusqu'à la mi-août. Et à travers ça, on a différents types d'activités. On a des activités, on a des barbecues à peu près une fois par semaine, des barbecues thématiques.
Vous vous en sortez bien avec la température, ça va?
On est très chanceux. Ça a toujours bien marché. Il y a demain qui annonce la pluie, mais c'est des barbecues, il se passe au centre-ville, alors on a accès au local.
On a oublié de dire à qui ça s'adresse.
Oui.
Le centre communautaire, c'est important.
Oui, centre communautaire Radisson, nous, on accueille des personnes qui ont des limitations physiques.
D'accord.
Donc, des personnes en fauteuil roulant, manuel ou électrique, ou des personnes ambulantes qui ont des problèmes d'équilibre, ou différents types de déficiences physiques.
D'accord.
Des jeunes adultes et des adultes. On travaille avec, on a un volet anti-réseau pour les jeunes qui a cours durant l'année, le samedi. Mais les jeunes peuvent aussi s'intégrer aux activités d'été régulières.
D'accord, d'accord. Donc, ben, j'imagine, peut-être pas ensemble, il y a peut-être des activités, j'imagine, pour les jeunes.
Ben,
pour
dans le cours de l'année, oui, c'est
oui,
ça, c'est
les
samedis.
Exactement. D'accord.
Mais comme pendant l'été, tu sais, pour un barbecue, on pourrait s'intégrer aussi.
C'est ça. Ça n'a pas coûté bien, bien cher hein, pour un barbecue.
Non, ben, en fait, il faut être membre du centre communautaire Radisson, c'est 15 $ par année.
Est-ce qu'il faut habiter le quartier?
Non, pas du tout. On est un organisme PANAM, donc reconnu. Par la Ville de Montréal pour intervenir, on intervient dans auprès de la population handicapée de différents quartiers de Montréal, différents arrondissements.
Bon, alors non, mais ça, je le dis parce qu'il y a encore parfois des gens qui se sentent tout seuls avec leur handicap et on peut les comprendre.
Oui, oui.
Puis souvent, ben, ils sont au courant qu'il y a des organismes, mais ils ne savent pas trop comment. Bon, alors pourquoi ne pas contacter, par exemple, le centre communautaire Radisson, puisqu'en plus, comme vous le disiez, vous avez une antenne. Beaucoup plus centre-ville que dans l'Est.
Hein? Plus dans l'Est, mais centre-ville aussi quand même.
D'accord, exactement.
Et voyez-vous, on accueille aussi des fois, on a certaines personnes de Laval, même de Repentigny. Donc, c'est ouvert à tout le monde, mais la majorité des gens viennent de Montréal.
On va déjà vous donner un site internet qui est centre-radisson, c'est vraiment toutbête.com. Hein,
oui,
si vous
c'est
voulez
facile
déjà,
à trouver.
C'est facile à trouver.
Et alors, là, on trouve la programmation, etc.
Voilà,
est-ce qu'on fait
ça.
Notre mission, etc.
D'accord.
Alors, outre les barbecues thématiques, comme demain, c'est le Portugal qui est à l'honneur dans les barbecues. Donc,
le
ça
poulet.
Veut dire, et c'est des barbecues animés aussi. Donc, il y a ça,
ah oui?
Mais on a un volet...
Animé.
Il y a des jeux, des activités.
OK, c'est d'accord.
On n'est pas juste là pour manger, il y a des activités, il y a de l'animation.
De la musique
portugaise. On a des animatrices, il va y avoir de la musique aussi, différentes choses. On a aussi un volet historique. Depuis l'année passée, on a commencé à intégrer dans nos activités régulières une dimension historique. C'est à la demande des membres.
Oui.
Et là, cet été, il y a différentes sorties. On profite du 375e anniversaire de Montréal. Il y a de très belles activités à faire.
Et le 150e.
Et le 150e du Canada. Donc, par exemple, on est allé faire la promenade au canal Lachine, mais accompagné avec avec des tablettes où est-ce qu'on suivait aussi en même temps les différents... Il y a une application et qui nous donnait des compléments d'informations. Donc, avec ces tablettes-là, on va pouvoir faire un projet aussi éventuellement de photos, etc. On va en créer quelque chose à l'automne.
Je suis allée voir à Vudo, moi, l'autre jour. Est-ce que c'est accessible,
On y va mercredi.
Ah, donc c'est accessible. Alors, j'imagine qu'ils font rentrer avant les gens à mobilité réduite, mais...
C'est prévu.
Prévu.
Nos billets sont réservés. Ça, c'est prévu.
Bon. C'est très beau. Vous allez voir.
Oui,
c'est magnifique.
Ça doit être magnifique. On va voir aussi... on va voir Cité Mémoire dans le Vieux-Port.
Oui.
Et on va avoir aussi une activité sur la communauté grecque à Montréal.
Ah oui?
Oui, un parcours guidé sur la communauté grecque à Montréal.
Avec un arrêt forcément dans un restaurant, peut-être bien, non? Pour aller manger une petite...
J'ai pas le programme précis, mais c'est ça. Et aussi, on va dans les festivals. Festival de jazz, Festival Juste pour rire, Nuit d'Afrique... On fait tout ça. Et à la fin juillet, on a une activité spéciale. On va visiter les forges de Saint-Maurice dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.
Qui sont accessibles, rappelons-le.
Oui.
Ce qui m'amène d'ailleurs à dire à tous les auditeurs en ce moment qui nous écoutent qu'on va faire un tour comme ça de région. C'est prévu aussi dans le cadre de cette émission pour savoir justement ce qui est accessible ou fatalement ce qui ne l'est pas. Quoi. Alors, donc...
Et les forges de Saint-Maurice, c'est intéressant parce que c'est le premier établissement industriel au Canada.
Okay,
donc, Ça va être une visite assez intéressante. Donc, on mêle l'éducatif, le loisir, parce que nous, on fait des activités éducatives, socioculturelles, de loisirs, qui visent la participation sociale des personnes. Mmh. Par exemple, on arrive de camping. La semaine dernière, on était en camping avec les membres à Oka.
Oui.
Donc là, dans les tentes adaptées, tout ça. Plus, on a culminé par une journée de plage. On était 16 personnes. 16 membres plus l'équipe, donc animation, etc.
Je suis contente que vous en parliez parce que j'ai parlé la semaine dernière justement à Chantal Lemire de Mémoire, c'est son nom, qui s'occupe de
l'accessibilité
crois,
c'est au ça. Pardoka,
exactement, et qui nous disait donc tout ce qui était accessible, et ils ont vraiment fait un travail formidable, et vous pouvez en témoigner, hein, Madame Doré,
j'imagine. Oui, ça fait deux ans qu'on va camper, si c'est pas 3 ans, puis en plus les journées de plage, ça fait plusieurs années qu'on aussi.
Donc accessible pour vrai, parce qu'il y a parfois des gens qui nous disent, oui, ils disent que c'est accessible. Oui, c'est accessible au cas.
Oui. Les tentes
et les tentes aussi.
Il y a des tentes.
Mais ça, il faut les réserver d'avance, hein, je crois.
C'est pris d'avance. C'est ça, exactement. C'est sûr que nous, la programmation d'été, c'est planifié longtemps à l'avance. On n'a pas le choix pour réserver.
Bien sûr. Alors, quoi d'autre?
Aussi, bientôt, on va faire de la voile adaptée.
Oui.
Et on a une activité aussi d'archéologie cette année.
Oh!
Oui, ça s'appelle Archéologue d'un jour. Et c'est animé par Archéo-Québec en collaboration avec eux. Et donc, on va découvrir comment les premiers habitants pouvaient se défendre, fendre, etc. Donc, à travers des... Et ils amènent des artefacts, tout ça.
Ah oui,
ça va
être
vraiment instructif et intéressant.
C'est où? Ça va se passer
Ça va se passer au centre-ville.
Au centre-ville.
Ça se passe à notre local du centre-ville.
D'accord, très bien.
Puis aussi, on va aller à Présence autochtone, parce qu'on assiste au festival Présence autochtone. On a fait un projet au printemps qui s'appelait « À la découverte des autochtones
».
On a eu une danseuse qui est venue, on a fait plein d'ateliers. Donc, on va aller à Présence autochtone.
Est-ce qu'il reste des places pour tout ça, Madame Doré?
Peu, je vous dirais, parce qu'évidemment, ça se remplit vite. Mais les gens peuvent toujours s'informer.
Oui.
Mais on a aussi une programmation d'automne. On est en train de préparer notre programmation
d'automne. Mais ça, vous allez revenir pour ça. Madame Doré, ça, je vous le garantis. Vous allez revenir, on va dire, peut-être après le 15 août, genre, pour venir nous en parler. Ça vous tente?
Bien sûr. Ah. Nous, on est... la programmation d'automne va sortir à la fin juillet.
D'accord.
Fait. C'est ça. On pourra vous l'acheminer aussi.
D'accord. Est-ce qu'il y avait autre chose dont vous vouliez nous parler?
C'est pas mal ça que je
c'est
vous
disais. C'est pas mal
en fait, ça. Le projet, ce qui est intéressant, c'est tout le volet historique aussi qu'on a,
qu'on
a
intégré
à travers les activités ludiques. Donc, ça donne une autre dimension aux activités estivales.
Ce sont des groupes de combien de personnes, à peu près?
Ça dépend. Environ 15 places, 10
D'accord.
places. Ça dépend des types d'activités.
Et le coût?
Pour être membre, c'est 15 $ par année.
Mon Dieu.
Puis le coût par activité, ça varie. Par exemple, les barbecues, les soirées au festival, c'est 15 $ Il y a d'autres choses, c'est 10 $ Ça dépend un peu de ce qui est nécessaire.
Donc, même le prix est accessible.
Oui. Puis nous, on travaille avec des personnes lourdement handicapées. On a des préposés qui nous accompagnent.
J'imagine.
Des préposés bénéficiaires qu'on appelle préposés accompagnateurs parce qu'ils font aussi... contribuent aussi à l'animation.
Exactement.
De ce qu'on fait.
Et ils doivent être spécialisés, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire accompagner comme ça n'importe qui, n'importe comment.
C'est ça.
Madame Doré, tout ça est passionnant. Je voudrais dire bravo à votre équipe d'avoir monté tout ça, d'avoir organisé tout ça pour les personnes handicapées cet été. Et on va vous retrouver au mois d'août avec plaisir pour que vous veniez nous parler de la programmation d'automne.
Ça
vous va?
Très bien. Merci de nous avoir reçus.
Mais ça nous fait plaisir.
J'invite les gens à aller voir notre site Internet.
Oui, allez-y, Madame Doré. On va le redire, centreradisson.com.
Oui,
simplement.
On a une page Facebook aussi.
Oui.
Donc, si vous devenez ami avec la page Facebook, vous allez pouvoir suivre ce qui se passe. On met des photos aussi, des activités, etc.
C'est génial.
Voilà.
Merci infiniment, Madame Doré.
Plaisir.
Passez une très belle fin de journée.
Merci, au revoir à vous aussi.
Llego a Puerto, voy para Mayarín. palomita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.
Voilà, et nous, on ne part pas à Magari comme dans cette chanson-là, mais on s'en va à Joliette rejoindre la maison Clémentine, une maison de soins à longue durée et de répit pour différents types de handicap, et sa directrice Maryse Desjarlais, qui doit être à l'autre bout du fil. Bonjour, Madame Desjarlais.
Oui, bonjour, Madame Fay.
Madame Desjarlais, je tenais à vous parler aujourd'hui parce que j'ai été particulièrement touchée quand j'ai vu que votre maison, dont vous allez nous parler, qui existe quand même depuis quelque temps, eh bien, devait être remise aux normes hein, à la suite de l'incendie de l'île Verte. Et maintenant, on va être obligé de rajouter de Terrebonne, bien sûr.
Oui, tout à fait, exactement.
Hein, et là, ça va rendre peut-être pas les choses encore plus urgentes, mais là, c'est clair qu'il y a des travaux à faire dans votre maison de soins à longue durée, dont je voudrais que vous nous parliez d'abord et ensuite, on parlera de l'aspect financier des choses. Parlez-nous d'abord de la maison Clémentine. Depuis combien de temps existe-t-elle et qui sont les personnes que vous abritez?
Oui, donc la maison Clémentine, elle existe depuis le avril 1997, donc depuis 20 ans, la ressource donne des services de répit et de gardiennage aux familles lanaudoises qui vivent avec un enfant qui a un handicap physique ou intellectuel âgé entre 0 et 65 ans. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la ressource, bien entendu, reçoit régulièrement la visite du service de prévention de la ville de Joliette. afin de s'assurer que les équipements de sécurité soient conformes, justement pour prévenir s'il y avait urgence, être capable de répondre à une situation. Donc, tout ça, c'est très correct et adéquat que la municipalité fasse ces suivis-là. Par contre, en 2015, à la visite justement du service de prévention, il y a eu un constat donc du fait qu'il y a eu changement au niveau des lieux physiques au courant des années. Le service de prévention a préféré demander à un architecte de faire, de refaire en fait le plan des lieux physiques et de s'assurer conjointement entre le service des prévention incendie et l'architecte que la bâtisse était munie d'équipements pour répondre aux normes de la régie du bâtiment. Donc, suite à ces vérifications-là, les recommandations de l'architecte ont été présentées au service de prévention. Et c'est là, dans le fond, que les normes ont été resserrées. Vous savez, la tragédie de l'Île Verte, ça s'adresse à une résidence pour personnes âgées.
Mm-hmm.
Tandis que nous, ici, on n'est pas soumis à l'exigence, on va dire, des gicleurs. Parce
oui.
que cette règle-là, actuellement, elle s'appuie uniquement au niveau des résidences de personnes âgées.
Mm.
Par contre, étant donné que le type de bâtiment et le type de service, je dirais même aussi au niveau de la clientèle qui est vulnérable, en perte d'autonomie, l'architecte et le service de prévention a jugé pertinent que la municipalité applique les règles selon les mêmes conditions qu'une résidence pour personnes âgées. Donc, on la nomme la résidence supervisée. Et c'est de là, finalement, que découlent les obligations qui ont été déposées à la ressource et puis pour lesquelles la Maison Clémentine travaille depuis déjà un petit peu plus d'un an pour obtenir des fonds afin de réaliser ces ajustements-là.
C'est ça, parce que vous ne les réfutez pas, je veux dire, vous ne dites pas non, on n'a pas besoin de ça, c'est pas ça du tout, mais c'est aidez-nous quelqu'un, quoi.
Oui, c'est ça. Donc, c'est évident que on est tout à fait d'accord avec le resserrement de la sécurité.
Oui.
Nous, ce qu'on veut, c'est aussi protéger les usagers qui bénéficient des services, assurer aussi la sécurité aux familles, les parents qui viennent conduire leurs enfants ici. Donc, on est en accord avec ça. Il n'y a aucun problème.
D'accord.
Il y a l'échéancier qui a été discuté avec le service des incendies pour que ce soit aussi respectable pour la ressource. Mais vous savez, on parle de 300 000 $.
C'est beaucoup pour une maison comme la vôtre, hein? Oui.
Tout à fait. 300 000 $, on est un organisme à but non lucratif.
Oui.
Donc, les fonds, nous, on ne les possède pas pour aller répondre à des exigences aussi dispendieuses.
Mais qu'est-ce que vous avez comme ressources autour de vous pour est-ce que vous avez des partenaires financiers au niveau des banques, tout ça, je ne sais pas. Comment ça se développe en ce moment?
Disons que la progression a quand même, je dirais, très bien été.
Bon.
Nous, actuellement, on doit quand même soulever qu'on a l'apport financier dans la communauté là, par le Club Lyon de Joliette, la Fondation Richelieu de Joliette. Vous savez, on a d'autres fondations, Fondation Martin-Matt, Fédération des médecins spécialistes du Québec. Il y en a d'autres aussi. On arrive à un total de 200 000.
Bon, donc il en manque 100.
Il en manque 100. Est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les partenaires financiers, quand ils nous prêtent, quand ils nous donnent de l'argent, ils émettent des conditions. Et souvent, dans les conditions, on ne doit pas dépasser une date pour réaliser l'objectif pour lequel on a demandé de l'argent. Et donc, les partenaires financiers, eux, veulent que les travaux soient réalisés au courant de l'année 2017, et l'échéancier qui avait été demandé par le service des incendies de Joliette est mars 2018.
Mmh.
Donc, c'est ce qui a été entendu avec les partenaires financiers. À cette date-ci, le problème qu'on vit, c'est que 100 000 $ est toujours manquant. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'on a jugé bon de faire appel à la communauté, d'un, pour les sensibiliser à la nécessité qu'un tel milieu réponde aux normes de sécurité, mais ne pas perdre ces services-là aussi. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir le soutien de d'autres partenaires financiers qui souhaiteraient donc contribuer à réaliser l'objectif là, qui est de rendre les lieux entièrement sécuritaires.
Madame Desjarlais, est-ce que la maison Clémentine est menacée de fermeture si des fois vous ne trouviez pas les 100 000 $?
Bon, à ça, je dois répondre que la question a été posée au service des incendies et à cette réponse-là, on nous a bien dit que si c'était nécessaire, oui, le service des incendies pourrait recommander la fermeture temporaire, mais il pourrait donner cette recommandation-là.
À ce moment-là.
Bien évidemment, oui, on ne souhaite pas ça. C'est ça qu'il
mais
faut
non,
comprendre. Hein?
Exactement. Et c'est parce ça. Que vous recevez combien de personnes par jour?
Nous, on peut recevoir jusqu'à 9 personnes par jour, que ce soit pour le gardiennage ou le service répit avec coucher. Là. Donc, jusqu'à 9 personnes par jour, et c'est comme ça 24 heures sur 24.
24. 7 jours sur 7. Et donc, ce ne sont pas forcément les mêmes qui sont là chaque jour. Ça veut dire que ça représente un bassin de population de combien de personnes à peu près?
Ben, actuellement, nous, on dessert environ 80 familles là, dans la région
80
de
familles. Bon, c'est alors ça. Imaginez. Donc, ça ferait 80 familles qui se retrouveraient avec un énorme problème sur les bras s'il fallait. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé, je me suis dit, bon, ben, il faut aider cette maison-là.
Oui.
La maison Clémentine, évidemment, vous savez, les gens sont très sollicités à tous les jours, mais il y a toujours de l'argent. Il y a toujours des gens qui sont des bons donateurs. Alors, on va les encourager aujourd'hui encore à vous aider. Madame Desjarlais, comment peut-on vous joindre? Comment peut-on vous verser de l'argent?
OK. Donc, eh bien, la Maison Clémentine, en fait, pour avoir nos coordonnées, on peut très bien aller sur notre site Internet en tapant lamaisonclémentine.org. Sur le site, il y a évidemment numéro de téléphone, adresse civique et puis adresse courriel que je peux quand même donner qui est maisonclémentine@commercialhotmail.com.
D'accord.
Et ce que je souhaite que les gens retiennent, c'est que si des entreprises ou des gens qui souhaiteraient contribuer n'ont pas nécessairement l'argent en ce moment, nous, on croit que des événements peuvent être tenus au courant de l'année 2018 ou même 2019 en sachant que les fonds qui seraient amassés lors d'un événement seraient automatiquement attribué à baisser l'hypothèque que nous, on n'aura pas le choix d'aller chercher pour répondre aux 100 000 $.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, des moyens, il y en a, même si c'est un petit peu plus tard que la date où les travaux vont se réaliser. Donc, à ce moment-là, on encourage les gens là, à participer.
On comprend tout à fait, Madame Desjarlais. On va vous souhaiter bonne chance. On va souhaiter bonne chance à la Maison Clémentine, à votre équipe et aux 80 familles qui profitent de vos services quotidiennement. Madame Desjarlais, je rappelle que le site Internet, c'est vraiment facile. Vous tapez simplement Maison Clémentine. De toute façon, on tombe sur vous automatiquement.
Voilà, exactement.
Voilà. Madame Desjarlais, Maryse Desjarlais, directrice de la Maison Clémentine, merci et bonne journée et bon courage.
Ça me fait plaisir. Merci.
Au revoir. Quelques nouvelles en rafale pour terminer cette émission. Située dans la région de Magog-Offord, il y a des chalets accessibles à louer. Les chalets U, qui offrent deux chalets accessibles disponibles pour location. Et quelques dates sont encore disponibles pour l'été. Alors, ces gens vous invitent à visionner la banque de photos et vous pouvez noter qu'il y a 50 $ de rabais pour les membres de Kéroul. C'est situé en plein cœur de la charmante région de Magog-Offord, ces chalets U. Deux chalets de plein pied qui accueillent jusqu'à 6 personnes. Le chalet des Diligences bénéficie d'une vue exceptionnelle sur le lac Orford et les montagnes. Le chalet Malaga offre, lui, un environnement enveloppant au cœur de la forêt entre le lac Malaga et l'étang Hollande, prolongement du lac des Citelles. Les chalets U sont certifiés accessibles pour les personnes à capacité physique restreinte par l'organisme Kéroul. Pour info, c'est facile, leschaletsu@gmail.com. Le regroupement pour la trisomie 21 et l'AQIS ont lancé une pétition demandant un rehaussement des budgets et des services en déficience intellectuelle. Alors nous vous invitons à signer une pétition et à la partager massivement. C'est simple, rendez-vous sur le site www.j'appuieladie, donc j'appuie, J-A-P-P-U-I-E-L-A-D-I, j'appuieladie.ca. Un programme de secours adapté pour des personnes avec handicap. La ville de Salaberry de Valleyfield rappelle aux personnes aux prises avec une limitation permanente, auditive, visuelle, intellectuelle, physique ou autre, que le programme de secours adapté a été pensé pour eux afin de les aider rapidement en cas de situation d'urgence. Ces citoyens touchés par des limitations permanentes ont intérêt à s'inscrire au programme de secours adapté, un programme qui existe depuis 4 ans. Pour s'inscrire, les personnes admissibles doivent remplir un formulaire disponible dans les CLSC et cliniques en soins de santé et de services sociaux. Les formulaires d'inscription sont aussi disponibles dans les différents bureaux de la municipalité et en ligne sur le site internet de la ville de Salaberry de Valleyfield. On peut aussi obtenir des infos en composant le 450-370-4750. Voilà, c'était Aime l'été, Clotilde Seille au micro. Merci à toute mon équipe et à vous. Bonne fin de journée, à demain, midi.